Bienvenue à cette nouvelle édition de Apéro UX en collaboration avec le Bureau de design de la Ville de Montréal et l'ETS, où a eu lieu l'événement également dans le pavillon F. Et nous avions, sous le sujet de comment vendre le design en 2026, quatre panélistes super intéressants, Anna Massoute, Mathieu Cournoyer de l'agence principale, Stéphane Bernier du bureau d'architectes Edifica et Frédéric Blash de Blash & Young et, Co. Donc, j'espère que vous allez aimer cette édition. J'ai dû couper un petit peu le début car j'avais égaré mes notes. Donc, on commence sur la question qu'on n'entend pas dans l'enregistrement, mais que Anna Massoute répond en premier, de répondre ou de parler de l'état du design en ce moment dans le marché. Donc, je vous laisse écouter cette édition et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions et ne manquez pas la prochaine édition.
Test.
Vous entendez? Ah, oui, OK, parfait. Donc, je me représente. Donc, je suis designer industriel par formation. J'ai aussi étudié en commerce. Puis, quand j'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler dans les organisations internationales. J'avais travaillé pour une organisation au Québec qui s'appelait Mission Design, que vous connaissez peut-être, ceux qui sont un peu plus de la vieille génération, qui faisait la promotion du design québécois au Québec et à l'international. Par la suite, j'ai été au Conseil international du design, duquel j'ai été directeur un moment. Puis, donc, j'ai eu un chemin plus d'aide aux designers pendant presque 15 ans. Et là, en ce moment, je travaille beaucoup dans ce qui est le design d'intérieur, le mobilier, avec des petits studios qui font du design de service ou de produits, mais du design à caractère un peu unique. On peut commencer avec ça.
Stéphane Bernier. Moi, ça fait 30 ans que je travaille pour Edifica. Je suis un des partners, un des actionnaires d'une firme de services intégrés, architecture, urbanisme, design intérieur et ingénierie. Moi, je travaille principalement dans le secteur des boutiques. Donc, je suis le practice leader au niveau des projets retail. Notre territoire de jeu, c'est Canada, États-Unis, puis un peu à l'étranger aussi. Alors, le sujet, je pense que c'était un bon sujet pour que je peux appuyer. Merci.
Vas-y, Frédéric.
Bonjour. Excusez. Bonjour. Moi, c'est Frédéric Blash. Je suis associé design et stratégie chez Blash Young & Co., un studio qui se spécialise en design de produits numériques, de stratégie UI, UX et création. J'ai étudié en design d'environnement, qui était à l'époque assez ambigu, mais dans le fond, qui était tout indiqué pour quelques années plus tard, l'arrivée du, à l'époque, le multimédia puis du numérique. Donc, vraiment du design de produits. Et puis, mon parcours a été soit en agence, soit même auprès d'agences numériques. Et chez le client aussi, donc comme consultant chez les clients. Donc, j'ai appris à vendre à l'interne, vendre à l'externe, et puis à négocier, dans le fond, soit avec des designers, soit pour des designers sur des projets.
Merci. Mathieu?
Bonjour, Mathieu Cournoyer. Je suis designer graphique de formation, ça peut-être ça cadre un peu, puis j'ai un studio, je suis cofondateur de Principal, qui est un studio en identité de marque, site web, communication. Et puis, en fait, j'ai comme deux angles aujourd'hui, parce qu'à la fois, je suis entrepreneur, donc effectivement, je dois présenter mon entreprise, aller chercher des contrats. Je suis également responsable en développement des affaires. Mais on a aussi un angle où nos clients sont souvent des designers, en fait, ou des architectes. Et c'est pourquoi aussi, il y a comme deux angles aujourd'hui, là, mais je vais peut-être regarder les questions de deux manières différentes, mais aussi comment, justement, qu'est-ce qu'on a appris justement par rapport à ce qui fonctionne lorsque les designers présentent leur travail puis cherchent à avoir des clients, idéalement.
Effectivement, c'est le sujet qu'on a ce soir, comment vendre le design en 2026. C'est le défi qu'on a tous face à nos clients qui, dépendamment de notre domaine, considèrent peut-être un peu fluffy ce qu'on fait ou pas nécessaire ou écartable même quand le budget est moindre, on essaie d'esquiver le design. Pour vous, c'est quoi l'état du marché du design
en 2026? La question qui tue. C'est une grosse question. On commence avec la grosse question. Est-ce qu'on est dans un bon marché? Est-ce qu'on est... Moi, je présuppose un peu moins bon que plus bon, mais est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison?
Moi, je pense qu'on a fait... Puis je parle... Mon domaine spécifiquement a fait énormément d'avancées dans les 15 dernières années. Moi, quand j'ai terminé, j'ai des chums qui font de l'image de marque. J'ai des chums, j'ai des amis qui sont architectes. J'ai des amis qui sont designers graphiques. Quand je leur expliquais que j'adorais ça faire un flow d'achat en ligne ou une page de FAQ en 2004, là, c'était un peu étrange autour d'une bière. Fait que moi, mon domaine a fait énormément d'avancées, je dirais, en termes de reconnaissance, en termes de s'établir comme une pratique, je dirais, à part entière. Donc, pas nécessairement un héritage de design graphique, un héritage d'informatique, un héritage d'ergonomie. Vraiment, devenir une discipline en soi. Je pense qu'il y a eu des contre-coups économiques les dernières années qui font que... mon domaine a été peut-être un peu plus contesté à l'intérieur des enveloppes budgétaires, des réalités d'affaires, puis des réalités budgétaires. Mais je pense qu'on est quand même à une excellente place comparée à quand j'ai commencé. Fait que je sonne vieux, là, mais c'est ça la réalité. C'est qu'avec toute évolution, je pense qu'il y a, il y a une stabilisation puis il y a une normalisation. Puis je pense qu'on est dans cette période de normalisation qui peut avoir des hauts puis des bas, puis des fluctuations. Mais je pense quand même que le domaine est encourageant. Je pense que j'ai de moins en moins à expliquer ce que je fais. C'est quoi la valeur que je dois apporter. Je pense aussi genre, qu'il y a des outils qui ont aidé à ça. Là. L'arrivée de Figma, par exemple, qui n'est pas un outil qui est emprunté d'une autre pratique ou quoi que ce soit. Ces outils-là, dans le fond, ont fait que ma pratique a pu se faire une place, je dirais, dans le marché. Comme pratique de design à part entière, là, au même titre qu'un architecte, un designer graphique, un designer d'intérieur. Là.
Tu soulèves les architectes, les designers. On a justement, pour une fois, chez Apéro UX, des gens qui sont plus variés que juste des designers comme nous, des designers UX dans le domaine du numérique. On a des gens qui ne sont pas dans le numérique. Est-ce que c'est, vous avez la même perception du marché de votre côté en architecture?
Bien, je dirais que dans le fond, ça fait quoi, 5 ans qu'on est en disruption sur la manière qu'on travaille, la manière qu'on magasine, la manière qu'on circule en ville, la manière qu'on... Les organisations essaient de travailler, de créer des nouveaux produits.
Tu faisais post-pandémie en disant 5 ans?
Pré-pandémie, post-pandémie, il y avait déjà des mouvances, là, mais là, il y a des disruptions sur... les supply chains, l'explosion des coûts de construction, c'est 40% plus élevé depuis une couple d'années. Là. Donc, c'est cette contrainte-là, je trouve ça intéressant parce que ça nous challenge à amener des solutions. Puis ça sort souvent les donneurs d'ouvrage, les schémas traditionnels de « j'ai le show construit comme ça, ce bâtiment-là, ce magasin-là, ce restaurant-là ».
On a tout ça.
On a tout ça.
Dans le numérique,
on a tout ça.
Vous l'avez dans l'architecture, c'est rassurant.
Absolument. Absolument.
Oui, mais c'est le même portrait. Est-ce que c'est le même portrait pour vous aussi?
Oui, bien c'est drôle. Je trouve ça intéressant que tu remontes un petit peu au début de ta carrière. Mais c'est vrai que quand je suis sorti, mettons, du bac en 2003, justement, je me rappelle que c'était une espèce de foisonnement. Là, tu sors de l'école, puis justement, il y a plein de choses qui justement, que tu as le goût de faire. Puis à ce moment-là, je me suis vraiment dit, comme, hey, tu sais, est-ce que je vais vraiment rencontrer des clients qui vont avoir une culture du design? Puis je te dirais que c'était dans les mêmes époques où, justement, même... Internet devenait beaucoup plus dans la culture de tous les jours. Puis, je me suis rendu compte que, justement, ce moment-là a fait en sorte que, de plus en plus, en fait, les gens avaient une culture du design à travers, justement, ce qu'ils voyaient de plus qu'avant, parce que ça devenait plus globalisé. Puis, je trouve que ça a juste augmenté. Puis, aujourd'hui, dans un effet où, justement, il y a presque plus de frontières, tu sais, puis, dans ce sens-là, je trouve qu'effectivement, on est dans un marché intéressant parce que, justement, on est face aussi à des gens qui sont plus éduqués. Puis, c'est... Tout ce qu'on veut en tant que studio, c'est parler à des gens qui, justement, partent déjà quelque part, puis tu peux les amener encore plus loin. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il y a une belle culture du design liée quand même à le fait que les gens on leur donne beaucoup, en fait, d'images, on leur donne beaucoup d'informations, puis ils peuvent s'outiller, peuvent aller chercher eux-mêmes les choses qui leur intéressent. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai de plus en plus, je trouve, des clients qui sont éduqués, puis dans ce sens-là, c'est le fun, en fait, de travailler avec ça.
On pourrait dire qu'aussi dans le panel, le côté essentiel du design n'est pas le même pour vous tous. de ce que tu disais, Stéphane, s'il y a un côté où on vient vous voir en architecture parce qu'on sait ce que vous faites, parce que c'est établi depuis très longtemps, plus que le design numérique.
Ils ne savent pas toujours ce qu'on fait.
C'est ça, c'était peurant. Est-ce que je me posais la question, j'ai oublié de la chercher, mais est-ce qu'on est obligé de passer par des architectes au Québec pour construire un bâtiment où on peut directement aller à l'ingénieur?
Non, ça prend un architecte pour...
Ça prend absolument un architecte. Oui. Ça aurait pu, non, je sais pas. Je pense qu'il y a des pays où tu peux aller à l'ingénieur direct sans passer par l'architecte. Je pensais que c'était le cas au Québec. Comment? C'est pas... Ouais, faut que tu viennes en avant si tu veux parler. Il y a une chaise, là. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une belle chaise libre dans Fishball. Fait que si vous avez des commentaires ou des trucs à ajouter, tu peux dire à ta mère, monte sur scène, maman, je veux te voir en avant. Anna, tu voulais ajouter aussi à ce point-là?
J'ai pas vraiment à me prononcer particulièrement. Je trouve que ça dépend vraiment. Comme pour les designers d'intérieur, il y a eu un coup juste après la pandémie. Il y a eu plein de restos et des affaires qui ont
Tout le monde voulait
commencé.
Rénover son
Tout
intérieur.
Tout le monde avait beaucoup de travail. Je vois beaucoup de l'intérêt maintenant à aller à l'international. Et je vois à l'international qu'il y a beaucoup plus d'intérêt dans les Canadiens, soudainement, parce qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup. On n'était pas sur le plan international, puis on commence à être perçu de plus en plus dans les shows à l'international. Les marques commencent à être connues. Je pense que le fait aussi que beaucoup se passe en ligne maintenant, dans le design de mobilier ou le design un peu... de ce genre qui est comme dans les revues, whatever, il y avait avant, je pense que c'était beaucoup plus des événements, des affaires qui se passaient en personne. Maintenant, la marque est comme beaucoup sur l'Internet. Ça affecte énormément aussi les marchés, mais ça nous donne un avantage sur le plan international qu'on peut être présent comme on ne pouvait pas avant. Fait que c'est une époque de changement immense, je dirais, des pros, des moins.
J'ai justement une question. Tu sais, à l'époque, justement, tu parlais de magazines, c'était souvent là où on était en contact avec des choses dans le domaine dans lequel tu t'opères. J'imagine qu'aujourd'hui, même, contacter un designer au Canada est beaucoup plus simple. Tu sais, c'est aussi simple que de faire un téléphone, là. Je veux dire, c'était un courriel de faire une demande pour un luminaire spécifique, pour pouvoir avoir des meetings, pour avoir une rencontre. On n'est plus obligé de voyager. Le niveau d'accessibilité, dans le fond, de la, je dirais, du créatif est beaucoup plus grand.
Oui, mais la compétition est grande aussi.
Est énorme,
parce qu'il y a,
oui.
Il y a les Lituaniens, les Mexicains.
Il y a énormément de bruit, oui.
C'est comme tout le monde essaie de rentrer oui. dans un même marché. Donc, c'est moins un client qui va aller chercher un designer que les designers vont être présents sur des shows, vont pitcher des concepts à des compagnies directement. C'est comme le travail de se faire voir dans c'est constant.
Puis, je vois qu'on a des choses en commun aussi sur le... Et ça m'amène à la prochaine question qui est comment on adapte notre discours en ce moment envers les décideurs, envers les gens qui nous donnent des contrats. Est-ce que ça a évolué dans les dernières années? Comme tu disais, Stéphane, ils ne nous comprennent pas encore, mais comment on arrive à qu'ils nous comprennent? Est-ce que ce langage-là a évolué? Dans le numérique, je sais que moi, je fais des pieds et des mains pour parler un autre langage, pour mettre l'idée à la tête de ce que moi je pense, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de comment a évolué votre pratique face à des gens qui se disent « mais le design, c'est le beau, c'est pas nécessairement l'essentialité ». Comment vous adaptez ce discours-là pour être compris par vos clients?
Bonne question. Puis des fois aussi des accidents, comme vous mentionnez, là, j'ai déjà reçu un courriel d'un quelqu'un à Séoul, qui disait, écoute, on a vu votre nom passer dans des concours, on a vu ça publié dans une revue à un moment donné en ligne. Pouvez-vous faire une proposition? C'est un RFP qu'on ouvre pour designer un magasin à Séoul. Bon, OK.
C'est d'ailleurs ma sous-question. Comment on trouve les personnes à qui on veut parler,
C'est parce qu'à un moment donné, il faut semer des choses au vent, puis il faut être chanceux. Il y a toujours de la chance. Même dans un design qui fonctionne bien, un bel espace, il y a une dose de chance que tout le monde a bien travaillé, les parties prenantes, les entrepreneurs, le client, tout
pas des autres clients. Il y a de la magie dans ce qu'on fait.
Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours un petit peu de magie. Tout est contrôlé, mais toujours une petite dose de magie qui nous surprend. Mais le succès amène d'autres succès. Je ne vous cacherai pas la chose. Alors, il faut reconnaître que, particulièrement avec des clients américains ou européens, c'est des donneurs d'ouvrages qui voyagent beaucoup puis qui, quand ils changent de job, ils amènent leur crew. Parce qu'eux, ils se font embaucher par une autre compagnie pour dire, écoute, là, tu as une mission, tu dois déployer tant de magasins, tu dois ouvrir un hôtel ou tu dois faire un grand projet. Puis eux, ils vont se retourner le bord pour dire, moi, j'ai besoin des gens avec qui j'ai du succès auparavant.
Fait que, leur crew, donc, leur façon de faire.
Ben, l'équipe de professionnels, les partenaires à qui on a confiance, qui savent qu'on est capable de livrer la marchandise. Fait qu'à un moment donné, on a toujours un mantra à l'interne de dire qu'il faut être généreux. On essaie d'être généreux avec nos clients, parce que, puis les partenaires, les entrepreneurs avec qui on travaille, parce qu'en étant généreux, on est vraiment engagé comme dans leur projet. Puis, en bout de ligne, ça paye. À la place d'essayer d'aller chercher un additionnel ou des montants supplémentaires, des fois, c'est être généreux. Mais sinon, il faut répondre à… Il y a trois canaux. Il y a des approvisionnements, que c'est très, 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 très administratif. C'est ardu.
Ils ne sont pas toujours réceptifs non plus.
Ben, c'est parce qu'il faut que ça rentre dans le portail UX de SAP ou d'Evalua pour répondre aux questions. Là. C'est aussi plate que maintenant. Ça. Il n'y a pas de valeur ajoutée pour avoir une couleur. Alors là, on essaie de voir comment, si on a ce processus-là, comment on peut avoir une conversation avec quelqu'un d'autre pour faire une démonstration de notre couleur particulière.
Bien, si je peux me permettre de mettre un peu la puce à l'oreille aussi, dans le numérique, on s'est muni de méthodologie à un moment donné. On a dit, on est UX. On fait de l'atelier. Puis je sais qu'à chez Edifica, maintenant, vous en faites aussi. Vous allez voir tous les gens qui vont être impliqués dans le projet, vous les mettez autour de la table et vous faites un atelier. Donc, il y a des métaux aussi qui deviennent des points de valeur quand on va voir nos clients, non? Je vais laisser Mathieu peut-être répondre ou répondre ce que tu voulais répondre à Stéphane tantôt.
En fait, je voulais faire du point en fait, ce que tu disais, parce que j'ai. Oui, je voulais faire du chemin en fait sur ce que tu venais de dire. Mais j'ai un ami justement qui est dans un des gros bureaux de publicité montréalais, qui justement racontait comment justement, tu sais, leur objectif souvent c'est de faire en sorte que ton interlocuteur, qui dans leur cas n'est pas toujours nécessairement la direction, de faire en sorte qu'elle fait tellement une bonne job qu'elle va avoir une promotion. Puis c'est drôle, je trouve que ça fait du pont en fait sur ce que tu dis, là, mais comme quoi justement après ça, ces gens-là aussi ont le goût de continuer parce que tout simplement, tu les as bien aussi fait shiner, exactement. Là,
complètement.
Fait que je pense que, bon, bref, c'est une autre manière de dire aussi ce que tu viens de dire, bref, que je voulais partager.
Il y a un autre point qui s'est soulevé comme de façon sous-jacente que je trouve intéressante. T'sais, il y a aussi les designers, les architectes. Souvent, c'est les clients les uns des autres. Dans le sens qu'un designer de meubles, souvent, c'est des designers d'intérieur, des designers, des architectes qui vont spécifier leurs produits. Ils vont travailler avec une équipe de branding pour faire leur promotion. Donc, le designer devient client de la firme de design graphique. Il y a aussi un peu tout ça qui se passe dans l'industrie du design, qu'on centre, tu sais, on crée des networks, puis on travaille avec notre crew, c'est peut-être aussi nos gens avec lesquels…
Tout à fait, puis je dirais même que, tu sais, même les ébénistes, des fois les ébénistes sont en contact directement avec le client parce qu'ils ont construit des meubles pour leur maison, leur restaurant, leur boutique, leur bureau. Puis, donc, souvent, des référencements indirects à travers d'autres partenaires dans l'écosystème de projets dans votre secteur, c'est super porteur pour bypasser un peu les approvisionnements ou un processus plus formel d'appel d'offres avec un jury ou une grille de qualification.
Oui, Mathieu.
Oui, puis tu sais, un exemple concret, tu ne sais jamais en fait quel est le client justement qui t'a tellement aimé puis qui lui-même a une bonne relation, des bons relationnels, mais effectivement, tu sais, nous on avait travaillé, justement on parlait de, pas international, mais disons, tu sais, dans le reste du Canada déjà, là, tu sais, comment sortir aussi du Québec, mais justement on avait travaillé pour le Power Plant à Toronto. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous appellent comme « Oui, c'est quelqu'un chez Powerplant qui m'a parlé de vous. » Puis tu sais, tout d'un coup, il y a des projets qui arrivent de Toronto, tout simplement parce que tu as fait un bon boulot, ils ont apprécié ça. Puis tout d'un coup, tu as des gens là-bas, clairement, qui sont un peu partout, puis qui parlent de toi, tu sais, en bien. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça, c'est une manière, d'une fois, de sortir, c'est déjà d'en faire un, deux, trois, puis avoir la chance aussi de faire tellement un bon boulot que les gens ont le goût de parler de toi, mais aussi après ça, que ces gens-là, finalement, puissent répandre un petit peu ton nom, sans que tu sois nécessairement là sur place pour faire la promotion.
Frédéric?
Oui, moi, je dis à ma gang, premièrement, il faut livrer. T'sais, quand tu livres, puis que le client est satisfait, ça va avec la générosité, mais ça va aussi avec la compétence. Il y a un lien de confiance qui se crée. Ces personnes-là vont quitter ce job-là, vont aller ailleurs. Ils vont se rappeler de toi. Ils vont te rappeler. Ou ils vont parler de toi. Puis moi, c'est ce qui m'a rendu le plus service, là. C'est probablement de pas juste agir en gratuité, mais en gratuité puis de temps, en gratuité d'attention. Je dis toujours, il faut le care, il soit aussi haut que ton client. Il va l'apprécier, que ça soit ton projet, que tu te l'appropries, que tu veuilles que ça soit aussi bon que lui. Puis ça va avec le fait de faire shiner le client aussi, lui, à l'interne. Lui, il est content. Il y a un rayonnement grâce à toi. Puis qu'est-ce qu'il y a en trade, qu'est-ce qu'il y a en échange de ça? Bien, lui, il fait confiance. Puis quand il fait confiance, bien, c'est là où c'est les projets les plus cool, là. C'est là où tu peux proposer des choses qui sont hors des sentiers battus. Puis là, même quand il n'est pas sûr, là, il va dire, « Ouais, mais je te fais confiance, tu sais. » Puis là, tu peux pousser encore plus loin ta pratique, là.
Merci beaucoup.
Présente-toi.
Oui, Félix Fauché, je suis professeur ici dans le programme de baccalauréat en design UX. J'embarque juste pour casser la glace, pour qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit ici et qu'il y ait un vrai fishbowl, mais aussi parce que Frédéric a utilisé le terme de confiance. Puis je vais évoquer une petite anecdote avec Bertrand ici. On fait partie d'un book club organisé par Albéric Maillet. Et on est en train de lire le livre « Redefining Value » édité aux presses de l'Université de Toronto. Et au début du livre, j'avais beaucoup d'espoir sur le livre parce que ça parle de « OK, Designerly Ways of Thinking » de Nigel Cross, puis comment on va appliquer ça à améliorer le monde. Okay, là, je suis super enthousiaste. Puis après, chapitre ou deux, puis ça commence à être plus « OK, comment est-ce qu'on va s'adapter pour le management puis pour pouvoir s'adapter puis faire des petites tépettes pour leur plaire? » Puis j'étais vraiment déçu. Puis je veux dire, j'enseigne pas la stratégie. C'est mon collègue ici, Guillaume Blum, qui s'en charge, fait que je lui laisse. Mais moi, clairement, ça me rappelait juste l'espèce de discours depuis 20 ans que j'entends de « Ah, les designers, on devrait tous faire des MBA, puis, tu sais, John Maeda, il nous a dit ça, puis il est allé le faire, puis, ah, c'est design is not that important, c'est business, puis tout ça. Alors qu'à la fin, moi, je me disais, ben pourquoi, tu sais, pourquoi on doit se plier à ce point-là? Je veux dire, c'est que, puis je reprends une des citations de Frédéric, qui est ici, de 2018, qui disait, tu sais, ça me prend juste de connaître 10% de ce que l'autre y fait pour call bullshit, c'est comme ça tu l'avais dit, pour être capable de se comprendre mutuellement. La même chose avec nos programmeurs, avec qui on travaille en design UX. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le fait d'être des meilleurs designers puis de gagner la confiance parce qu'on est des bons designers qui n'est pas comme notre équipe et notre objectif, plutôt que de juste dire on va devenir des designers, wannabe gestionnaires pour se faire entendre. Je comprends pas. Les avocats, ils n'essayent pas d'être des meilleurs gestionnaires pour avoir des contrats. Pourquoi nous...
Même plus que ça, tu sais, juste rapidement reprendre là-dessus, je serais tellement malheureux d'être gestionnaire comme certains de mes clients. Puis je les adore, là. On va luncher, on passe du temps ensemble. Il y en a que c'est des amis. Mais tu sais, j'ai pas envie d'être dans mes meetings. J'ai pas envie de gérer ce que tu gères. Moi, je suis designer. C'est ça mon c'est ça ma traque, c'est ça ma compétence, c'est ça que je mets à profit pour le projet. Puis je pense qu'ils comprennent ça. Je suis pas en compétition avec ça. J'ai pas cette ambition-là. Moi, en échange de ça, j'ai une liberté. Fait qu'avec la confiance vient plus de liberté comme designer.
C'est pas une question de compétition, je pense, une question de pouvoir parler leur langage.
Mais exact.
C'est ça la nuance. Quand Félix dit on doit peut-être avoir fait un MBA, comme Christelle Black le disait quand on était chez Shopify et on parlait un peu de ce sujet-là, elle regrettait de ne pas avoir fait un MBA à un moment donné dans sa carrière parce qu'elle disait « je suis jamais arrivé à parler le langage des gens d'affaires ». Présente-toi.
Allô, moi c'est Amy, je suis cofondatrice du studio Transversal. Ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on a parti notre studio, donc moi je suis designer graphique aussi de formation. Et maintenant, entrepreneur, par la force des choses, donc non, je n'ai pas fait de MBA, mais j'ai appris à parler à des gens qui parlent business. Il y a plein de choses super intéressantes, ça m'a fait comprendre plein de choses que je ne comprenais pas avant. Je travaillais en agence de pub, j'avais plein de frustrations que maintenant je comprends, en fait, les bien fondés de certains commentaires. je trouve qu'on effleure un sujet depuis tantôt sans tomber dedans, la valeur perçue. On crée de la valeur, oui, mais on ne la définit pas. Quand dans un milieu qui est très compétitif, c'est ça qui va nous faire démarquer. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on crée comme valeur? C'est bien beau de dire qu'on en fait puis qu'on en crée, mais c'est quoi concrètement qu'on crée comme valeur?
Moi, j'aimerais juste retourner à l'autre question vite, vite, parce que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Ça rentre dans mes plates-bandes. Le Conseil international du design, dans le temps que j'ai été, a fait un code de pratique professionnelle pour les designers qui disait, en gros, ça venait aussi du sommet mondial du design qui était ici à Montréal, il y a eu une déclaration qui était signée, qui était, disait en gros que les designers, à la place de se voir au service du commerce, devraient se voir au service de la société, puis de se positionner différemment envers leurs clients, envers la société, envers le business. Fait que je pense que ce questionnement-là, puis ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça vient comme... tout le monde ne comprend pas le design. Je pense que tous les différents secteurs du design croient que ah, c'est parce que le design industriel est mieux connu, ou l'architecture, puis même les architectes vont dire... On va pas éduquer le monde, mais si on arrive à faire... comme tu dis, des projets où on peut mettre de l'avant la capacité et avoir la confiance de faire le projet d'une façon qui est bonne dans le sens du design et pas nécessairement dans une conception carrée du business. C'est en poussant un peu les limites puis en faisant des projets qui sont audacieux, qui sortent un peu du carré et qui ne sont pas nécessairement dans l'attente du business, qu'on peut démontrer qu'est-ce qu'on fait, de quoi on est capable en termes d'industrie. Puis je pense que c'est ça la clé, c'est de ne pas accepter le cadre, tout simplement.
Ça, c'est intéressant. C'est mon point de vue. Pas accepter le cadre établi, d'aller plus loin qu'eux. Est-ce que c'est la faculté de quelqu'un qui est en design? Est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, on va avoir... Oh, tous les micros se sont levés. Est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, on va avoir des VP design dans une usine de boulons en Beauce? Parce que moi, c'est mon objectif qu'il y ait ça, mais il faudrait qu'il y ait une compréhension de ça à un moment donné.
Mais je pense que c'est à tout le monde, les petites boîtes, les designers qui sont dans des boîtes, c'est à tous de comme changer un peu leur mindset plus que... Parce que si on est tous dans cette optique de pousser vers l'avant, tu sais, on fait une mini-révolution, on le dit pas à personne, mais on le fait entre nous, là, de notre place qu'on a dans la boîte. Les choses vont changer parce que dans les situations où le design a eu l'opportunité de, comme Apple, je pense que c'est comme l'expérience d'eux, mais quand on est vraiment capable de comme harness la capacité du design, les résultats, ils sont. Mais c'est juste que je pense que tout le monde se sent un peu qu'on peut pas faire notre potentiel parce qu'on essaye de rentrer un peu dans ce cadre.
Il faut être au-delà du cadre, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il faut avoir le langage d'affaires ou pas?
Bien, je ne dirais pas nécessairement le langage d'affaires, mais il faut être capable de le comprendre aussi. Mais aussi, il faut faire un peu du Jedi mind trick de nous-mêmes par rapport aux clients.
On est des Jedi.
Parce que dans le fond, on n'est pas là vraiment pour choisir des couleurs, puis des proportions, puis des tables, et des chaises et l'éclairage. Ultimement, le design, ce qu'on fait, c'est mettre en... rendre physique la stratégie d'affaires du client. Puis ça, ils ne savent pas comment faire ça. Donc, ils ne savent pas comment accueillir un client dans un restaurant, ils ne savent pas comment accueillir un employé dans un bureau. Mais si on l'explique, puis pour la valeur de pourquoi, comment ça va représenter l'ADN. Donc, le design, c'est aussi de protéger l'ADN de cette brand-là, de cette compagnie-là. Bien là, tu commences à être pas mal plus stratégique dans tes actions. Puis là, tu peux l'expliquer, bien, c'est pour ça que ça te prend du rose.
Mais il est là notre défi, donc, à faire comprendre qu'on fait plus que la couleur et la forme. Mathieu?
Oui, bien, en fait, souvent, surtout les startups, en fait, mais si un startup rentre dans notre bureau, puis lorsqu'on va faire la première présentation de design, qui va quand même très loin en termes de se projeter sur à quoi va ressembler sa marque, souvent, on est un peu bold, mais puis on leur dit, bien, écoutez, après cette présentation-là, votre entreprise va valoir plus qu'avant que tu sois rentré dans la pièce. Puis à la fin, ils sont toujours d'accord. Oui, mais c'est ça. Tu crées de. Là, je parle de branding, mais je pense que ça peut être vrai aussi en design d'objets. Ça peut être vrai dans différents secteurs, en architecture certainement. Mais que justement, tu crées quelque chose justement qui est de l'équité, en fait. Tu sais, donc qui peut peut-être pas balancer toujours dans les livres, quoique hein, certaines grandes marques, elle a une valeur. Ben, c'est pas seulement le design qui le fait, mais disons que quand une image qui est bien faite, qui est simple, qui accroche l'œil. Bien, c'est certain que ça aide. Ça ne peut pas nuire, en tout cas. Puis j'aimerais aussi rebondir sur une autre chose que tu as dit par rapport à est-ce qu'on va avoir des VP design en Beauce. Mais c'est super drôle parce que il y a un truc, pendant quelques années, j'ai enseigné, puis un des premiers points, en fait, quand j'expliquais un petit peu l'introduction du cours, je disais une des choses qui justement m'a amené à vouloir enseigner, c'est que justement, t'as des entreprises, puis j'avais l'exemple de les bottes Sorel. Justement, je suis rentré à un moment donné au bureau, puis j'avais un collègue qui avait des bottes Sorel, tu sais. Je me suis dit, hey, wow, elles sont rendues vraiment belles, les bottes Sorel. Tu sais, ils sont rendues ailleurs. Puis là, j'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte que ça s'est fait acheter par Columbia. Puis là, tout d'un coup, en fait, ils faisaient de la bonne qualité, c'était pas ça la question. Mais il a fallu qu'ils se fassent acheter par une marque américaine pour voir un peu la valeur d'un produit de qualité, un design de qualité, mais que tu avais besoin de mettre à jour, que tu avais juste besoin de mettre à jour puis de diversifier un peu, puis tu sais. Puis j'aimerais ça que ça soit fait au Québec, ça, pour qu'on n'ait pas besoin de vendre nos entreprises pour que d'autres organisations le fassent. Puis ça donne que, justement, je pense que dans l'éducation, justement, j'essaie de boucler la boucle, mais dans l'éducation, je pense aux États-Unis, puis dans les startups, c'est plus naturel d'avoir un VP design. T'sais, puis je pense qu'effectivement, il nous manque ça. Il nous manque dans les milieux d'affaires de faire comprendre que, bien, écoutez, il y a des pratiques qui existent. Là, on n'est pas en train de pelleter des nuages. On n'est pas en train de dire, justement, on devrait avoir notre place autour de la table puis de quémander. On est juste en train de dire, regardez, les bonnes entreprises
qui fonctionnent. On entend souvent les jeunes designers, c'est jamais être autour de la table.
Oui, absolument. Mais mon point, c'est qu'on n'y arrivera jamais comme ça. Il va falloir prouver que, justement, regarde à travers le monde, ça fonctionne. Puis toi, tu n'es pas capable de grossir, que tu dois vendre ton entreprise pour arriver à dépasser ce plafond-là, alors que la vraie solution serait d'avoir des designers à des niveaux décisionnels.
Présente-toi. Moi, je suis un MBA. Je viens du domaine des affaires. Fait que déjà, si vous avez des tomates, vous pouvez me les lancer. Je suis pas designer. Par contre, j'ai été amené à vendre le design dans plusieurs projets de manière numérique, des projets numériques. Puis, je vous entends parler, tu sais, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait? L'aspect rationnel est très important dans le design, je comprends ça. Mais en vente, pour moi, l'aspect émotionnel, je trouve qu'il est souvent mis de côté quand on parle de design, surtout de design d'expérience utilisateur. Puis, j'aimerais ça être le chien dans le jeu de quilles, si tu me permets. Le côté émotionnel, comment vous le gérez? Parce que moi, personnellement, la seule façon que j'ai réussi à faire vendre le design dans un projet qui en avait vraiment besoin, c'est de les menacer de ne pas aller dans un autre continent pour une foire, pour valider qu'est-ce qu'on faisait, parce que eux ne voyaient pas l'importance que j'arrive avec un prototype puis de les faire vivre l'expérience. Ils voulaient juste que j'aille parler, tu sais, discuter, vendre à la bonne franquette, alors que moi, j'ai dit, hier, moi, si j'ai pas un prototype d'un main, puis que les gens peuvent pas être le maître de leur histoire, puis vivre leurs émotions, puis que moi, je devienne pas le vendeur, mais que j'écoute. Parce que, non, en passant, c'est ça qu'on apprend en vente au début. L'histoire vaut plus que les arguments. Regardez Apple, que beaucoup de gens en design vénèrent, ils essayent pas de convaincre qu'ils sont les meilleurs. Ils donnent une histoire, ils donnent une émotion, puis ensuite, ils te font embarquer dans le reste. Mais ça commence toujours par l'émotion. Puis j'ai l'impression que, surtout en design d'expérience utilisateur, on met ça de côté. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait? Moi, je trouve que le design, tu sais, c'est te sentir en sécurité quand tu es en train de remplir un formulaire, te sentir empowered quand tu es en train de bâtir quelque chose. Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus d'émotion dans la vente de design? J'aimerais ça que vous m'expliquiez ça parce que ça ne me rentre pas dans la tête. Puis je pense qu'on passe à côté de quelque chose pour justement arriver à convaincre ces business people.
Elle va répondre.
Je ne sais pas si je vais répondre, mais j'ai été à ta place. Ce que je fais de mon côté en consultation, je travaille avec des boîtes de design justement à faire leur développement d'affaires pour des exportations. Donc, j'ai été à ta place plein de fois. Puis, je pense qu'il y a une des choses, c'est que, premièrement, la plupart des firmes de design n'ont pas de vendeurs. Tu sais, il n'y a personne qui est vendeur.
C'est ce que j'entendais tantôt.
Un vendeur, c'est un skill set. Tu sais, c'est pas une personne formée en quelque chose d'autre qui... Tu sais, souvent, les boîtes de design qui vont avoir du succès, c'est parce qu'il y a une personne créative, puis il y a une personne qui fait la vente, qui fait l'organisation, qui sait comment... Puis des fois, les boîtes vont, après 10 ans, avoir le déclic de « Hey, j'ai fait ça dans un pitch, puis ça a marché, je vais le faire une autre fois. » Mais c'est un skill qui est comme... ça prend des années pour se rendre au point de l'avoir, quand en fait ça aurait pu être un vendeur du début avec les skills nécessaires qui le faisaient. Puis je pense que c'est un des problèmes, peut-être plus pour les petits studios, mais souvent, je ne sais pas, je serais intéressée à l'échelle de l'architecture. Probablement, vous avez des gens, vous avez des grosses boîtes, mais souvent, un studio de design, ça commence avec une personne, ça devient peut-être cinq, ou peut-être ça va se rendre un peu plus grand, mais souvent, la partie de vendre tombe sur le créateur qui est le fondateur de la boîte, qui est lui-même le nom sur la porte. Puis c'est pas facile de aller quelque part puis dire « Moi, je suis génie, je suis le meilleur. » Tandis qu'avoir quelqu'un à côté de toi qui peut dire « Ah, toi, so-and-so, le nom du studio est super bon, il a fait ça, non. » C'est un peu, des fois, juste une question de structure.
J'avais le goût de répondre.
Ouais, moi, j'ai eu la chance de faire une rencontre il y a environ 18 ans, qui est mon associé. On a commencé à travailler ensemble. On est arrivé chez César. Je suis arrivé. Lui, il était stratège. Il a un background en business. Fait qu'il était analyste d'affaires, BA. Puis, moi, je suis embarqué dans un meeting. Puis, ça clique. Un coup de foudre professionnel. Puis, à ce jour, on est associés. Mais il y a une complémentarité entre nous deux, justement, qui fait. Puis, qui est exceptionnelle. Je dois te dire, je me trouve chanceux. Mais moi, je suis l'intempestif créatif, un peu plus irrationnel. Et lui, il est beaucoup plus précis, sensé, prudent. Donc, il y a des fois où il va exprimer une prudence que moi, j'ai pas. Puis, dans le fond, on va en discuter. Puis là, lui, il va être bold. Et il y a des fois où il va m'exprimer un rationnel. Sur lequel, qui va tempérer, je dirais, mes ardeurs.
C'est bon, okay? bon cop, bad cop.
Exactement. Puis je pense que nos employés apprécient énormément ça parce qu'il y a un équilibre aussi derrière les deux ressources. Il y a deux points de vue qui sont équivalents. En termes de force, là, on est vraiment associés. Nos deux noms sont sur la porte. Et puis, pour moi, il y a autant de valeur dans la démarche de design que moi comme designer. Tu comprends? Il est l'extension du design. Il est designer de facto parce qu'on travaille ensemble. Mais parce que justement, il amène cette perspective-là qui est importante puis qui crée un équilibre dans le travail que je fais. Après ça, je pense que, juste pour répondre, je pense que l'émotion est extrêmement importante. Je pense que le pourquoi est important. Genre, tu sais, je veux dire, moi, c'est souvent, ben, vous devriez faire ça. Pourquoi? Mais parce que ça. Parce que vos clients s'attendent à ça. Parce que, imaginez votre mère qui paye son bill en ligne. Tu sais, genre, des fois, c'est comme, oh, OK, tu sais, là, tout à coup, c'est pas un client, là. Là, c'est sa mère. Tu sais, puis je dis, il faut qu'elle paye sa facture en ligne parce que vous avez décidé d'aller paperless. Puis elle n'est pas habituée, elle a 92 ans. Puis toi, ça ne te tente pas de le faire à sa place. Fait que comment tu rends ça sain? Et là, tout à coup, genre, il y a un engagement émotionnel. Des fois, c'est plus rapide. Des fois, c'est plus simple. Des fois, c'est des jeunes. Comment tu fais pour faire un contenu en ligne qui est intéressant à des jeunes quand ils ont YouTube? Là, ils peuvent juste aller visionner n'importe quoi.
Stéphane, hors du numérique, ça se passe comment?
À la base, chaque projet, on doit le vendre. Fait que oui, absolument. Nous, on a une approche beaucoup de storytelling. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, on scénarise le parcours de quelqu'un, du client, de l'employé, qu'est-ce qu'il va voir. Puis même des fois, on se rend jusqu'à des personas. Donc, on scénarise l'expérience. On valide l'émotion qu'on veut, les triggers qu'on veut allumer. Quand je m'approche, comment je me sens, comment je me repère quand j'ouvre la porte. Donc, on essaie de comprendre ces moments-là, puis après ça, on bâtit autour de ces moments-là, essentiellement. Alors ça, c'est une bonne manière de le faire, mais même Disney, leur business, c'est de créer une émotion, puis après ça, ils bâtissent un film, un amusement park, des gogos, puis une boîte à lunch. Alors, tu sais, mais ils sont très rigoureux dans la définition de cette émotion-là, puis c'est comme ça qu'ils peuvent garder cette, fil conducteur-là, puis peuvent le scaler. Parce que dans le fond, on parle souvent de scaler le design, on va le grandir et tout ça, mais ce n'est pas le design en tant que tel, c'est la discipline de comment maintenir l'ADN de la brand, l'idée, puis ensuite le produit que tu fais. Fait que,
la confiance, tu sais, je veux pas, c'est dans la roue des émotions, là. T'as l'attirance, la confiance, puis je me rappelle pas c'est quoi le tel qui est encore plus intense, mais ça reste de l'émotionnel. Tu sais, faut pas tomber trop dans le rationnel. J'ai l'impression que c'est le piège, peut-être la déformation professionnelle du design, alors que pourtant, créer des émotions, vous êtes les meilleurs placés pour faire ça. Puis je le sens pas. No offense, là, quand je vous amène avec moi dans le pitch, je le sens pas, l'émotion. T'sais, la colère, c'est un moteur de changement. La tristesse, ça aide à accepter qu'est-ce que tu peux pas changer. La joie, ça aide à juste amplifier tout ce que tu vis. Puis la peur, no offense, ça aide à cultiver le faux mot que plusieurs des dirigeants, la peur de ton compétiteur va le faire puis pas toi, ça marche. C'est pas du langage business, c'est du langage humain. L'émotion, en tout cas, je pourrais faire un...
Et la passion comme émotion. Présente-toi.
Catherine Gauthier, Interface Enco. C'est pas la même chose que l'événement à Québec. Il y a un livre en six qui s'appelle « Will you do that to your mother? » Puis c'est vraiment tout sur comment on fait vivre les expériences aux gens. C'est un sujet super intéressant. Parlant de « Will you do that to your mother? » on a enlevé les agences de placement dans la santé parce qu'on voulait avoir un peu plus de constance. Puis moi, ce que je vois dans comment vendre le design en 2020 au gouvernement, de plus en plus, les agences de placement qui rentrent dans le placement de personnel en UX ou dans les projets. Donc, je voulais voir comment on vend le design au plus bas soumissionnaire pour amener de la qualité. Donc, c'était ma question politique.
Bonne question. Ça crée des émotions dans la salle?
Ben non, mais je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser le fait que le moins cher, c'est pas toujours le mieux. Des fois, c'est bon d'investir un peu plus, ça peut amener une expertise. Je me questionne sur, en tant qu'entrepreneur de 3 ans, comment je fais pour avoir de l'impact pour mon gouvernement puis vendre mes services?
Comment changer le système à la base? Anna, tu voulais répondre?
J'ai pas une réponse à ta question, mais j'ai un « à ne pas faire ». Parce que je pense qu'un des problèmes qu'on a à intégrer le design dans des nouveaux, tu sais, dans le design public, dans la stratégie, dans des aires de, comme dans l'architecture, on comprend que le design est important, dans le branding aussi, mais dans toutes les nouvelles affaires, un des problèmes que je trouve souvent avec les clients, c'est quand ils sont brûlés. Genre, si on soumissionne trop bas, puis on n'est pas capable de livrer, puis il y a un client qui n'a pas eu un projet bien terminé, ça ferme la porte à tous les designers forever. Puis souvent, c'est comme ce qu'on entend, qu'on parle à ces gens-là, c'est « Ah, ben oui, ben c'est parce qu'on a essayé un projet, puis ça n'a pas bien marché, les coûts ont été trop élevés, etc. » Donc, ce que je dirais, c'est que... Si on essaye de faire ce genre de projet, il faut être sûr de pouvoir livrer, puis il faut commencer petit, puis commencer à avoir ces connaissances-là, parce que c'est un peu un problème dans notre industrie, puisque les gens ne connaissent pas, ils ont une mauvaise expérience, puis les gens ne veulent pas prendre de risques, en fait, et les gouvernements encore moins.
Ben, j'allais te dire, on le sait tous, hein, y a des firmes qui savent qu'ils ne seront pas capables de livrer au prix, puis ils commencent comme ça en essayant d'aller chercher des extensions. Fait que, je ne sais pas, c'est très chaud pour moi. Je ne sais pas, avez-vous des trucs ou des façons...
Mais non, mais si c'est au plus bas soumissionnaire, il n'y a pas de vente dans le sens où c'est le seul critère, en fait, est celui-là. Donc, après ça, tous les autres critères de qualité que tu peux amener vont être... Moi, je suis très, très poli quand on m'arrive avec un projet comme ça, mais je dis, ben, je suis désolé, mais on n'est pas les moins chers, mais on est les meilleurs. Fait que le choix que vous faites, ben, c'est dans le fond...
Tu l'auras pas.
Ben exactement, mais c'est ça. Je peux pas avoir les deux, tu sais, dans le sens où...
Fait que, mais il faut que tu joues au golf avec.
Non, mais je pense aussi qu'il y a des moments où on prend des risques. Il y a des moments pour lesquels on a pris des risques. Littéralement, genre, au niveau de la soumission. Mais il faut que tu crois au projet à la base. Donc, il faut que tu te dises, OK... Inévitablement, pour être le plus bas soumissionnaire, il faut que tu te dises dans ta tête, je vais undercutter mon prix. Donc, je risque de ne pas faire d'argent ou d'en faire minimalement. Donc, déjà, c'est un bet parce que tu te dis, probablement que tout le monde autour de la table pense la même chose que moi. Mais jusqu'à quel point ce projet-là, je trouve qu'il vaut la peine? de sa vocation. On a fait des sites pour des cégeps, par exemple. Puis la vocation de ça palliait probablement financièrement dans notre tête, dans notre cœur. On était là, OK, il y a une vocation qui va plus loin. Puis ça, je pense que, un, il faut être à l'aise avec cette idée-là. Faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas se sentir mal, puis il faut l'assumer. T'sais, une fois qu'on a accepté ça, puis si on l'a, parfait, on l'assume.
Tu es proche du concept de pro bono parce que le projet est vraiment cool.
Oui, oui. Puis je pense qu'il faut être très ouvert une fois qu'on l'a avec le client. Hey!
Avez-vous comme, tous un pourcentage de, pas pro bono, mais au cost, parce qu'il est vraiment le fun?
Oui. Ben, moi, j'ai aucune difficulté à ça. Mais en même temps aussi, il faut équilibrer les choses. Des fois, il y a des projets qui sont plus lucratifs, qui sont plus gros, qui te permettent de prendre ce risque-là. T'sais, c'est sûr que quand tu as plusieurs employés, des choses comme ça, faut que tu le prennes en ligne de compte. Ça ne peut pas juste être ça. Mais tu te dis, ben, il y a des projets, puis il y a des contrats, puis il y a des mandats qui sont plus lucratifs, qui me permettent justement, qui me donnent une latitude quand un projet le fun comme ça passe, d'être probablement plus agressif sur l'auto. Puis ça ne m'empêchera pas de dormir, puis ça va être le fun.
Puis tu sais que tu te fais un nom probablement parce que c'est un
projet. Exactement. Qui va rayonner. Puis on parle de confiance. C'est de la confiance.
Mathieu?
Ben, pour moi, du pro bono, c'est pas du plus boss missionnaire. T'sais, c'est très différent. Pour moi, il y a une notion. Non, mais même gratuit. C'est pas grave. Non, mais dans le sens où lorsque c'est pro bono, souvent aussi, ça vient avec, justement, il y a une valeur. Justement, c'est comme, ça va être une institution culturelle, ça va être, tu participes à quelque chose. Pour moi, le plus boss missionnaire, c'est institutionnalisé. Puis moi, il y a un problème. Puis effectivement, il y a aussi une volonté aussi de ne pas embarquer là-dedans pour ne pas promouvoir ça, puis pas pour dire qu'on peut continuer à le faire. À une certaine époque, il y avait des pitchs dans les boîtes de branding. Il y en a pratiquement plus aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont dit « Non, nous, on ne fait pas ça, des pitchs. » Bien, c'est un petit peu la même chose que j'essaie de servir aussi à ces institutions-là.
Bien, je suis d'accord, je m'excuse, là, c'est juste parce que de plus en plus, ce que je vois, c'est des appels d'offres en UX et tout ça, où c'est plus boss missionnaire, puis ces agences de placement qui gagnent à 45 $ de l'heure, puis on sait que ce n'est pas des salaires qui sont viables là-dedans. Fait que c'est frustrant pour les firmes qui sont spécialisées là-dedans.
Puis tu sais, je te rassure, là, j'ai déjà eu, admettons, des mandats proposés là, pour pitcher, où ils demandaient des maquettes dans le pitch. Tu sais, t'es comme, hey, wow, là, tu sais, genre, puis il était là, faut que tu signes qu'ils ont le droit de s'en servir. Tu es là, ben là...
Les agences s'investissaient énormément il y a quelques années. À un moment donné, je pense que le mot s'est passé, là, mais vous proposiez énormément de matériel en soumission, puis personne autour de la table était sûr d'être pris, puis tu ne savais pas ce qui allait arriver avec ton matériel. Là.
Mais on se comprend que du pro bono, ça ne veut pas dire gratuit. Non. Du pro bono, ça veut dire pour le bien commun. Donc, déjà, en partant, c'est un principe pour juger. Mais il y a aussi, je pense que là-dedans, ayant été l'organisation internationale pour laquelle je travaillais, était dans le design graphique, puis travaillais beaucoup avec les associations en design graphique ici. Puis, tout ce qu'ils ont décidé à un moment donné, c'est d'être contre le free pitching, puis de faire des grosses campagnes, puis se mettre entre eux et décider que personne allait faire du free pitching dans l'industrie. Il y a un peu de tout ça qui est aussi, ça a rapport avec l'advocacy, avec les organisations, avec se mettre ensemble puis être d'accord sur certains standards professionnels. Puis c'est comme ça que les choses changent, parce qu'on n'est pas dans une situation où on doit tout accepter non plus.
Ouais. Qui es-tu? Présente-toi.
Je suis Hélène, j'ai une entreprise Osmosia, j'ai une formation comme... en design de l'environnement. Je travaille depuis 33 ans en design, UX. Ma pratique s'est orientée vers l'analyse d'affaires et un fort volet UX. Et pourquoi je suis allée vers l'analyse d'affaires, c'est venu par tous les mandats que j'ai faits. Moi, je travaille beaucoup en B2B. Je travaille sur de très gros projets et il faut s'intéresser aux finances quand on est en B2B. On ne vend pas à du grand public. Ce sont des projets souvent vendus sous licence, où il y a des grands conseils d'administration qui vont accepter ou non d'ouvrir des budgets pour nos projets, pour avoir plus de design à faire et être capable de faire des interfaces et d'avoir des modèles, en fait, qui vont pouvoir être mieux développés. Si tu es capable de comprendre que tu dois un petit peu satisfaire ton CEO. Et à satisfaire ton CEO, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé sur un projet de la SNCF pendant 3 ans, où on faisait des interfaces essentiellement pour du revenu management, donc la gestion des entrées et sorties des trains, les billets, quand il y avait des événements et tout ça, puis c'était vendu à toutes les entreprises, en fait, de trains en Europe. Pour qu'on puisse développer des budgets, il fallait absolument que je comprenne quand mon CEO, qui m'avait engagé, me dit « j'ai absolument besoin de cette interface-là, de ce dashboard-là pour pouvoir vendre à mon conseil d'administration. »
Dashboard.
Oui. Bien, du dashboard, moi, j'ai fait des dashboards pendant 3 ans, puis c'est très créatif, je vous dirais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des dashboards qui peuvent être lus en… Quand un revenu management doit faire du travail et doit analyser entre 7 à 8 dashboards en 10 minutes… Bien, on ne met pas 10 lignes. Hein? Je veux dire, ça, ce serait normal pour nous comme UX à mettre 10 lignes à analyser, mais on n'en met pas 10 parce qu'il faut qu'il passe rapidement, bien, il est habitué à du Excel. Donc, tout ça, quand on comprend, en fait, d'adapter notre discours, d'adapter aussi, de comprendre la psychologie des gens avec qui on travaille au niveau métier, ça peut beaucoup nous aider à mieux gérer, mieux vendre nos projets. J'ai un deuxième exemple. Aujourd'hui, je travaillais sur une soumission pour un parc immobilier. 2 ingénieurs qui m'ont approché parce qu'ils veulent refaire tout le ticketing, toutes les demandes, les requêtes. Ils ont un parc immobilier de millions de dollars. Tout le monde les connaît, je ne peux pas le… Mais c'est le YMCA. Et ils ont besoin de refaire leurs demandes. Et ils m'ont approché, moi, pour faire l'analyse d'affaires de tout leur département de la gestion du parc immobilier pour réouvrir et être capable de vendre le projet, qu'il soit revu pour être UX, puis ce n'est pas un poste de dépense. Donc, il faut le vendre au directeur TI pour que lui comprenne que ce n'est pas un poste de dépense, mais moi, il faut que je traduise où est-ce qu'on va sauver du temps et en combien d'argent ça va être gagné pour qu'on puisse réouvrir. Voilà.
Merci. Comme ce n'était pas une question, je vais en profiter pour vous en poser une. De toutes les années d'expérience que vous avez, aujourd'hui, dans la salle, vous avez des jeunes designers, des gens qui sont venus aujourd'hui et se sont dit « vendre du design, là, il y avait un sujet. S'il n'y avait pas eu de glace, je pense qu'on aurait eu le double de personnes ici. » Parce que c'est une question qui se pose. Vous êtes des jeunes designers en 2026, puis je suis sûr que vous vous êtes posé la question, vous repartiriez maintenant, vous le feriez comment? Vous vous établiez, vous en avez parlé tout tantôt, vous avez dit « ouais, mais j'étais chanceux, ou j'ai eu ci, ou j'ai eu ça, il y a eu des circonstances. » Comment on part de l'architecture en 2026? Comment on part une agence numérique en 2026? Par où on démarre? Est-ce que c'est encore faisable? Parce qu'arrive aussi le chien dans le jeu de quilles, comme on disait tantôt, l'IA arrive. Ça bouleverse un peu tous les trucs, peut-être que c'est pas relié ce que je dis là, mais comment vous démarreriez aujourd'hui? Profonde réflexion. Question non valide ou… Oui, d'accord.
Bien, je pense qu'on est à une période, en tout cas dans mon domaine, on est à une période où je pense que tout le monde va falloir repartir. On parle de l'IA. Dans mon domaine, c'est extrêmement présent. Au niveau des développeurs, c'est... Je veux dire, si j'avais une équipe de 200 développeurs, je pleurerais. Je pense qu'on est en réflexion depuis un an et demi, 2 ans.
Vous vous réinventez?
Oui, il faut se réinventer.
Il faut se réinventer tout le temps aussi, de toute façon.
Je te dirais que le plus gros avantage qu'on a en ce moment, c'est d'être petit. Je peux juste scaler. Si j'étais 200 dans le domaine du numérique en ce moment, genre, j'aurais peur parce que est-ce que je dois réduire? Est-ce que je dois fluctuer? Moi, je peux juste scaler ou, dans le fond, avec des nouveaux outils, je peux décupler, dans le fond, les capacités de chacun.
J'ai vu des boîtes mettre des gens à la porte en développement pour en engager d'autres. Quasiment le même nom, mais surtout parce que c'est des gens qui acceptaient de travailler avec l'IA, avec des nouvelles façons de faire.
C'est inévitable. Ça, je le dis tout de suite, là, c'est inévitable. Chaque personne à qui j'en parle depuis des mois, soit ils me disent « Ouais, mais c'est pas encore. » Puis, hey, tu sais, là, c'est comme en 20 minutes, c'est meilleur que ce que pas mal de monde me sortirait en 2 heures, en 5 heures, en 5 jours.
Donc, c'est très bon.
Puis, c'est juste exponentiel. Fait que oui, on n'est pas encore là, mais mets 5 ans, genre, puis ça va rivaliser énormément.
Et où une petite agence pourrait démarrer demain avec la moitié moins de personnes que toi, puis faire une…
Complètement, différente. Complètement. À Pige, ce serait un moment génial, genre, pour être empoweré et puis pour faire énormément plus, oui.
Et donc, c'est quoi le conseil pour une jeune firme? ton compétiteur qui s'en
moi, ce que je trouve qui est intéressant si on se part en affaires en ce moment, c'est que justement, on est à un moment où tout le monde doit se réinventer. Donc, je veux dire, la compétition est sur le bout des pieds. Donc, dans mon domaine, tu pars sur la même ligne de départ que tout le reste du monde. Puis probablement avec un avantage parce que t'as pas de dette, t'as pas de cost center, t'as pas d'overhead, t'as pas de bureau. Je veux dire, t'es parti après la pandémie, le télétravail, ça fait partie d'une réalité. Tout ça. Fait que moi, dans ma pratique, je trouve qu'on est à un moment où c'est pas déprimant, au contraire, genre de se partir en ce moment. Deuxième chose, moi comme consultant puis comme étant à l'extérieur, je dirais que je trouve ça. J'ai toujours trouvé qu'on écoute plus quelqu'un qu'on paye à l'externe que quelqu'un qu'on paye à l'interne. Moi, j'ai eu des clients qui ont des départements de design, qui ont des designers qui sont super talentueux, ils les écoutent pas. Puis des fois, ça me rend mal à l'aise, puis j'en reviens pas, mais je suis comme, mais c'est parce qu'ils me payent à l'externe, puis ça a plus de poids, puis plus de valeur, mon opinion, même si probablement je dis la même chose.
KPMG, Deloitte et tous les autres misent là-dessus.
Oui, puis c'est vrai.
On est meilleur que vos gestionnaires à l'interne.
Puis comme designer, je pense que quand tu payes un designer, justement, quand les entreprises payent un designer, là, tu l'écoutes, tu es comme, c'est correct d'être étrange, weird. Je sais, j'ai été à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le fond, des entreprises puis de grandes entreprises. Puis j'ai eu beaucoup plus de liberté à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les autres qui aiment ça.
T'es le weird dans le dossier.
Oui, mais t'es le weird quand t'es à l'intérieur, puis t'es le cool quand t'es à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as beaucoup plus de latitude. Ouais. T'es pas pris, t'es pas politique. Et surtout, quand tu te couches le soir, qui ait pris la bonne décision ou la mauvaise décision, tu n'es pas responsable de cette décision-là.
C'est ce que s'est dit la personne à l'interne aussi. Je l'ai délégué à quelqu'un qui est
responsable. Oui, mais moi, mon travail, c'est de donner la meilleure recommandation. Après ça, elle peut ne pas être suivie, mais j'ai... C'est moi comme designer, c'est ça ma job. Genre.
Anna, oui, Stéphane?
Ben, je vais ramener ça à je réfléchissais un peu à ta première question. Puis, fais pas ça tout seul. On peut pas partir une business. La multiplication d'une équipe de 5, 6, 7 personnes diversifiées.
Ça serait quoi ton minimum requis en fait?
Moi, c'est 5 à 7 personnes.
De genre, comme
un profil différent. Là. Fait que, si tu es un designer, un architecte, un designer graphique ou un gars de UX, un programmeur,
un
vendeur aussi, mais. Quelqu'un de business un peu, un certain point de vue.
Celui qui parle de langage
ou un intérêt. Mais tu sais, je pense qu'il faut qu'on. Ça s'apprend. C'est pas si compliqué que ça, mais. Puis après ça, ben, tu trouves un filon qui t'amène du succès que tu peux répéter pendant 3 ans. Puis après ça, apprends tout ce que tu as pu faire de bon dans ces 3 ans-là de projet. Trouve quelque chose, un autre domaine où tu peux le transférer pour diversifier tes revenus, puis tes types de projets, tes contacts et tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a souvent amené, on est rentré dans de l'aménagement de bureau en disant, ben écoute, l'aménagement de bureau, vous avez des employés qui doivent comprendre l'ADN de votre brand. Fait que c'est du retail, mais pour le bureau. Alors là, on a commencé, ça faisait plusieurs années qu'on faisait beaucoup de boutiques, beaucoup de retail. Puis on a dit, on va appliquer le mindset retail en aménagement de bureau. Puis on a eu beaucoup de succès comme ça, mais c'est juste de transférer.
Vous deux, vous n'avez jamais assumé que vous étiez dans une position de confort?
Non.
Vous êtes toujours en évolution. Est-ce que c'est le cas aussi pour Mathieu, Anna? Vous êtes dans votre zone de confort ou vous êtes toujours en réinvention?
C'est des industries qui sont vraiment différentes. Ça dépend quel genre de design aussi. Si tu as étudié en design industriel puis tu veux faire du meuble en particulier, je dirais, en premier, c'est une bonne idée de travailler pour quelqu'un. C'est comme avoir des opportunités, même si c'est des stages. Je sais que beaucoup de gens sont contre les stages impayés, mais je trouve que les universités terminent à un point qui est avant le point où le designer est vraiment prêt pour être un designer en boîte. Fait qu'avoir ce genre de comme extra certification qui est vraiment travailler dans une boîte puis comprendre comment ça fonctionne avec les clients, comment les méthodologies de travail, par exemple, on n'en parle pas à l'école, le workflow, comment pitcher aux clients, toute cette relation de être un expert à l'extérieur et non pas une personne à l'intérieur qui prend des ordres, toutes ces affaires-là s'apprennent dans des studios, dans des bons studios. Donc, je dirais la première chose, trouve-toi une job quelque part qui fait bien. comme chez Principal, chez vous aussi, mais je travaille avec Principal en ce moment, puis je vois que la façon de faire, il y a un niveau d'éthique là-dedans et un autre, savoir comment faire, comment gérer les clients qui est important. Donc, première chose, même si c'est 6 mois, acquérir toutes ces connaissances de comment faire un workflow, comment travailler avec les clients. Puis là, le IA, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça ouvre plein d'affaires. T'sais, on peut faire des sketchs visuels dans 5 minutes qui avant étaient des renders qui étaient chers, qui prenaient beaucoup de temps. C'est quelque chose. Donc, ça change la dynamique, mais c'est des outils à la fin. C'est les connaissances de base qui vont faire la différence. Puis, je suis d'accord, il faut un partenaire. Si on veut travailler pour soi-même, si on est dans l'optique d'être un entrepreneur en design, avoir quelqu'un qui peut gérer l'aspect de toute l'affaire financière, les ventes, etc., c'est très bien, mais aussi juste d'avoir une autre personne avec laquelle on peut faire du back and forth puis prendre les décisions. En start-up, c'est quelque chose qui... Parce que c'est très grugeant avoir un start-up. Tu sais, prendre toutes les décisions soi-même, être toute seule dans son espace de travail et avoir à tout faire. Être avec une autre personne, déjà, ça fait un autre genre de dynamique, puis ça fait qu'on fait moins de burn-out, puis on est capable d'aller un peu plus loin. Puis ce que je vois avec les jeunes, maintenant les jeunes start-up, c'est qu'on a des opportunités incroyables, étant au Canada, de s'internationaliser rapidement. On parle le langage du premier monde, c'est un avantage qu'on a par rapport à tous les designers brésiliens, indonésiens que j'ai rencontré qui aussi, eux, vont essayer de rentrer dans ce territoire. Mais nous, on est déjà comme... On va au Danemark, on a le trust déjà. Eux, ils pensent que nous, on est bon. On vient d'une société qui est pas mal comme eux. Les choses s'organisent un peu de la même façon. Culturellement, on n'est pas si différent que ça. Donc, on peut embarquer dans des relations plus facilement. Puis avoir un marché qui est comme... le monde entier pour nos produits, ça nous laisse être vraiment bon à une affaire transversale, puis être vraiment, vraiment bon parce que la compétition va être forte. Fait que si on est la personne qui fait les meilleurs studios de yoga au monde, on a du marché si on va à l'international, mais si on reste juste ici, c'est un marché qui commence à être restreint.
Question externe. Oui, tu veux intervenir, Mathieu?
Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que, juste pour peut-être revenir, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. T'sais, à chaque génération, on peut se dire qu'il y a des gens qui sont installés, mais toi, tu arrives avec effectivement une vigueur, justement une notion d'être tech-savvy. Justement, on parle d'AI, mais les gens qui partent maintenant ont une longueur d'avance aussi sur des gens qui sont déjà partis. Fait que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise, mauvais moment. Je pense que les conseils de Anna sont très bons. Là. Moi aussi, j'ai toujours dit à des designers qui commencent, pars par ton compte. Là. Je veux dire, va travailler dans une boîte dans laquelle tu apprends de bonnes pratiques, que tu comprends un petit peu aussi comment ils font de la business, justement. Là. Puis dans une bonne...
Comprendre la rigueur
ouais,
aussi.
Oui, c'est ça. Puis une boîte qui offre ça aussi. Là, quitte à ce que ce soit une trop grosse boîte, que tu te retrouves peut-être, mais au moins tu apprends quelque chose.
Ils sont jeunes, ils veulent pas faire de la rigueur, ils veulent créer, ils veulent
changer. Honnêtement, je considère que c'est drôle parce qu'il y a un employé qui m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit, hey, je me rends compte à quel point je me suis fait chier les 7 premières années de ma vie, mais aujourd'hui, ça me sert tellement genre à... Tu sais, savoir c'est quoi qui est correct, faire correctement du premier coup, tu sais, avoir l'œil, recommencer par soi-même sans que le patron dise « recommence ». Tu sais, de regarder ton design le lendemain matin puis de dire « c'est-tu, c'est pas ça ». Puis recommencer par toi-même, ça, c'est énorme. Juste une petite chose qui m'a fait penser, note personnelle. Mon père était architecte. Puis je considère que ce qui l'a le plus limité dans sa carrière, c'est d'avoir été seul. Il y avait un bureau seul où il était un architecte, businessman, manager, il y avait ses employés, il y avait... et puis, je l'ai vu, son parcours, puis maintenant, j'arrive à un âge, dans le fond, qui est beaucoup plus proche, où je peux avoir de la perspective sur ce qu'il faisait. Puis moi, j'ai fait un parcours avec un associé, puis je me rends compte à quel point c'est un monde de différence en termes de stress, en termes de réflexion, en termes de bouncer des idées, en termes de pouvoir échanger, en termes de bâtir quelque chose. Puis tu vois, en rétrospect, je trouve que c'est probablement la plus grande limite qu'il y a eu à son talent en architecture parce qu'il passait son temps à faire autre chose.
Question extérieure. Présente-toi. Qui es-tu? Avec le micro.
Moi, je m'appelle Patrick. Je suis product designer depuis une quinzaine d'années maintenant. Et actuellement, je suis designer UI. Je suis consultant pour Hydro-Québec par le biais de P2CO. En fait, je voulais rebondir sur des choses qui ont été dites. On parle de vente du design, on parlait de l'émotionnel tout à l'heure, on parlait de la valeur, prouver la valeur qu'on apporte en tant que designer. Moi, je voulais ajouter à tout ça, qui sont des très bons points, la mesurabilité. Mesurer ce qu'on fait, mesurer la valeur qu'on apporte dans un design. Parce que quand on va voir un stakeholder et qu'on parle de... Alors, moi, je parle en tant que design d'interface. Je ne sais pas comment ça s'articulerait dans du design industriel. Je parle de ce que je connais. Quand on va voir un décisionnaire, un stakeholder, et qu'on parle de baisser la charge cognitive dans une interface, on l'allège, ça, et qu'on s'arrête là, qu'on parle un langage de designer, ça ne parle pas à un stakeholder. Ça ne veut rien dire pour lui. Si on dit qu'on baisse en baissant la charge cognitive, ça a de la valeur pour nous parce que nous, on est designer. On sait tout ce que ça va induire par la suite. Mais si on lui dit que baisser la charge cognitive, ça va apporter un taux d'adoption de plus 10%, un taux de conversion de plus 15%, ça lui parle. C'est des chiffres qui vont lui faire comprendre la valeur qu'on peut apporter. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que designer, on ne fait pas assez. Je pense que pendant longtemps... C'est mon avis personnel, il est peut-être faux, mais je pense que pendant longtemps, on a délaissé en tant que designer la conscience et la valeur qu'on apportait sur notre travail. Nous, on était là pour produire, livrer, et c'était pas notre travail de vendre finalement la valeur derrière ça. C'est du business, c'est pas notre place. Et avec les périodes compliquées 2022-2023 qu'on a vues, il y a eu beaucoup de licenciements, des contrats qui se sont arrêtés, etc. Moi, j'en fais partie. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite depuis quelques années sur, en tant que designer, il faut qu'on sache mesurer la valeur de ce qu'on fait. C'est soit du quantitatif, donc des chiffres, soit du qualitatif. Donc ça peut être... il y a plein de méthodologies qui existent. Sur, par exemple, sur le quantitatif, ça va être quand vous allez chez Callahan & Tyer et que vous faites un achat, vous allez souvent derrière avoir un survey qui va vous demander sur une note de 1 à 10 comment vous noteriez tel aspect, tel aspect, tel aspect. Bon, ben, ça, c'est du quantitatif et c'est de l'émotionnel, justement. Ça fait partie de ça. Moi, quand je démarre un projet, en général, quand le projet me le permet, et que le client vient me voir en me demandant souvent, il vient pas avec un problème, il vient avec une solution à son problème, et il veut quelqu'un qui va être capable de la produire. Et c'est un des problèmes qu'il faut outrepasser. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaie de, entre guillemets, détruire un peu son discours, et j'essaie de comprendre, tu veux une interface, tu veux une application, tu veux un site. Tu veux en faire quoi ? Ton besoin derrière, c'est quoi ? Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui coince, c'est quoi son problème, et ensuite fixer avec lui des objectifs. Quand on fixe des...
Comme le temps avance, je vais essayer de le reformuler en question rapidement. Je la trouve intéressante. C'est comment vous arrivez... On parlait tantôt de comment être le prochain VP design dans une entreprise de la Beauce, d'écrou et de boulons. Comment on arrive à dire au patron, comment on arrive à dire à nos clients, non, tu n'es pas dans la bonne direction? Parce que c'est vrai que souvent, on nous arrive avec des projets tout packagés, puis c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que ce n'est pas un peu notre rôle de le questionner ou on l'exécute? Vous devez tous un peu vous retrouver devant ces situations-là, autant en architecture qu'en design numérique qu'en design. Est-ce que la prémisse, vous vous permettez de la questionner des fois? Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, mais ça en était
une. Oui, non, c'est ça. Ben,
j'ai la mesurabilité aussi, mais comment on arrive à questionner? Est-ce que vous vous permettez de questionner le client en amont sur ses prémisses, sur ses hypothèses?
Je vais répondre assez directement à ta question parce que c'est vraiment ce à quoi je veux dire. C'est probablement une des choses les plus difficiles au quotidien de notre pratique. je fais les deux. Je fais la version qu'il veut, puis je fais la version que je veux. Puis j'y montre. C'est souvent ça que je vais faire. Parce que si je la fais pas, il va toujours me dire « Ouais, mais t'as pas fait ma version. » Puis si je commence à m'argumenter, lui, il va dire « Ouais, mais je le sais, regarde les chiffres, puis tout. Hein. » Puis ça devient une conversation. Puis là, on parle vraiment fonctionnel. Là. On parle d'un flow. Tu travailles chez Hydro-Québec, par exemple, il y a du verglas. Comment tu fais genre, pour trouver quand est-ce que ça va être réparé? C'est quelque chose de simple en prémisse. Puis lui, il va dire « Mais je veux que… » blablabla. Bla. Il va arriver avec une commande. Il va. Puis toi, tu sais que c'est l'autre. Moi, règle générale, puis je sais que, tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est comme faire ce qu'il veut, puis tout. » Ouais, mais c'est une manière d'arriver, probablement genre que j'ai aucun intérêt à rentrer dans une confrontation puis un conflit avec lui, parce qu'il va se fermer. Probablement que si j'avais une pratique qui était autre, je ferais autre chose, mais dans celle-là, c'est beaucoup tâche, tu sais. Puis je vais faire les deux. Je dis toujours « Faites les deux ». Puis des fois, j'ai des designers qui font pas du tout ce que le client a demandé. Puis je dis, t'as-tu la version que le client a demandé? Ils disent, non, je l'ai pas faite parce que. Puis je suis là, tu l'as fait, faut la faire. Tu sais, quitte. Puis je la planifie dans mon temps, puis dans mes heures, puis parce que c'est ça qu'il veut voir. Puis après ça, on amène le client à réfléchir d'une manière différente.
Donc, tu investis le double du temps sur tous tes mandats.
Pas sur tout, parce qu'à un moment donné, justement, il y a de la confiance. Parce qu'à un moment donné, là, quand ça fait deux ou trois fois, là, il dit, écoute, là, tu peux sketcher rapidement, ou tu peux lui en parler, ou tu peux discuter, ou tu peux avoir le meeting après, puis dire, écoute, je suis pas sûr, j'aimerais ça qu'on explore autre chose. Puis...
Mathieu, tu as le goût de répondre. Est-ce que tu fais deux versions à tout ce qui t'est demandé?
Alors, on fait une option.
Une, puis c'est déjà la folle.
Non, selon la pratique. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Là. Je pense que juste notre réponse, puis une approche. Puis, la plupart du temps, effectivement, c'est que. Ben, j'accroche sur une chose que tu as dit, tu en as dit beaucoup, mais disons, il y a une chose sur laquelle tu disais, c'est comme. Tu as dit, est-ce que je questionne ou je questionne, en fait, c'est quoi qu'il y a derrière, en fait. T'sais? Exactement. Mais c'est ça, en fait, ça, là. Pour, en tout cas, dans notre cas, mettons, ça devient vraiment le point de départ, en fait, la rencontre de démarrage qui n'a pas besoin de durer si longtemps que ça. Une fois qu'on a toute l'information, 2 heures, mais on se prépare, puis on va chercher ça. Puis si on répond par quelque chose de complètement différent de ce qu'il nous a donné, il va être devant, puis il va juste faire comme « OK, merci ». Parce qu'il ne peut pas se projeter, tu ne peux pas demander à un client de se projeter sur une forme. Tu peux juste bien comprendre son problème, puis si tu résous son problème… Il va l'accepter.
Son problème et ses objectifs.
Le problème qu'il souhaite, qu'il cherche à résoudre. Là.
Comment ça se passe en architecture?
Ben, je pense que nous autres, on a une approche de. Il faut donner une certaine forme de choix. Parce que les choix provoquent des conversations, des discussions et des débats qui permettent des fois de unlocker certains schémas mentaux que le client était prédisposé. Mais ça dépend de l'opportunité aussi. Là. C'est juste de raconter une anecdote là, pour. Où on a challengé un peu la prémisse d'un appel d'offres, c'était pour les SAQ. Puis les SAQ, on a un appel d'offres, il invite 3 firmes, 5 firmes, je ne sais pas combien, pour, comme il appelait, pour rafraîchir le décor des succursales.
Rafraîchir. Un peu plus bleu?
Ah, c'est pas, mais rafraîchir. Puis là, ben, tu sais, on était un peu pas content de cette... ce cadrage-là de notre rôle et le potentiel. Puis j'ai cru comprendre qu'il y a des firmes qui sont arrivées avec des samples, tu sais, des esquisses, des mood boards, une histoire, des affaires de même. Puis, nous, ben, on est arrivé avec un comme consommateur, comme un insight qui disait, écoute, là, il y a bien du monde. La plupart du temps, on va demander au beau-frère c'était quoi le rouge qu'il a pris l'autre fois, puis il était très bon. Premier insight. Puis après ça, on a fait un petit peu de guerrilla marketing où on a amené des étiquettes collées sur un foam core, interviewé des clients qui rentraient à l'SAQ pour dire lesquelles des 20 bouteilles est la meilleure. Putain, ben, je sais pas, là. Donc, puis on l'a filmé. Donc, à la place d'arriver avec un pitch, avec une idée, on est arrivé et dit la problématique, c'est que les Québécois ne savent pas comment acheter du vin, ils ne connaissent pas assez l'univers du vin. Fait qu'il faut trouver une manière que le magasin parle du vin. That's it. storytelling.
C'était pas du guérilla marketing, c'était la recherche UX.
Oui, la recherche UX, excusez.
Mais vous êtes bien chez Dica, vous faites plein de choses.
Mais tu sais, ça a amené une conversation sur, dans le fond, c'est quoi le but de la. Puis après ça, il y a des conversations très tactiques, de dire, bien, là, en ce moment, les employés, ils fuient les clients. Ils se cachent en alignant les facings des bouteilles. Là, puis là, les rangées gondoles, ça en a 20 pieds. Là, t'as 300 bouteilles, c'est bien le fun aligné. Ça travaille ton OCD. Puis, fait qu'ils faisaient juste ça à place d'essayer de servir le client. Puis, fait que là, ben, on a changé le mobilier qui faisait que c'était pas grave que les bouteilles n'étaient pas alignées. Puis qu'ensuite, la couleur du gris du fond aidait à faire ressortir la silhouette de l'étiquette. Puis après ça, on a amené un autre layer de storytelling par rapport aux régions. Mais... c'était pas, on n'est pas rentré en disant que ça vous prend un magasin avec une tablette grise.
Vous avez challengé, quoi.
Vous avez challengé.
Vous l'avez rentré dedans un peu, puis après, peu importe ce que vous pouvez proposer, pour revenir au point de Patrick, c'est vous mesurez. Il y a des meubles en retrait, des meubles en avant, on va voir lesquels sont les plus efficaces. Dans le temps, on pourra modifier puis réajuster. Une dernière question, M. Lirette, la parole est à vous.
Bonjour. On pourrait repartir pendant 2 heures, mais je vais essayer d'être succinct. Et pas biaisé, mais je vais échouer dans la deuxième chose, c'est sûr. Juste pour mettre en contexte, j'entends beaucoup de choses depuis tantôt, puis c'est super intéressant. Ce que je me rends compte, c'est un peu la question que j'ai posée tantôt, c'est quand on parle de design, on parle de quoi? Je vois beaucoup de réalités différentes, beaucoup de contextes différents, inside, outside, beaucoup de niveaux d'expérience client aussi. Comme je disais, pour moi, je le rate sur 5 en disant j'agirai pas de la même façon dans une entreprise qui est 1 sur 5 que 5 sur 5. Ma question pour vous, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une approche commune pour toutes ces sous-facettes-là de design? Parce que quand je vous entends répondre, je comprends votre réalité, mais c'est totalement différent de la mienne, par exemple.
Une bonne question. L'approche commune, j'avais la même pour terminer, donc c'est parfait.
A priori, je dirais non. Parce qu'en fait, je pense que même chaque client a besoin d'une approche différente, même dans nos industries. Fait que on
vous
peut
vous adaptez par client, tous? Ouais. Vous faites tout ça, oui?
Souvent. Donc, si on veut dire que la méthodologie est en premier, bien comprendre le client et adapter la stratégie envers le client, on est tous d'accord. Mais aller plus loin de dire comment ça va être selon le client, même dans mon industrie, le client peut être un architecte, le client peut être une industrie manufacturière, le client peut être une galeriste, le client, déjà, toutes ces différentes... types de clients ont besoin d'une stratégie de vente totalement différente.
On s'adapte.
Ben, je pense que ça fait partie de la vente, en fait. Donc, on parlait au monsieur qui était un vendeur. Connaître le client, premièrement, c'est qui le client, segmenter pour comprendre c'est quoi les différents types de clients, c'est quoi les besoins de chacun, puis c'est quoi la position de chacun, puis sur quoi est-ce qu'on peut être compétitif sur leurs besoins. C'est déjà un travail qui est nécessaire puis va être différent. Donc, oui, je pense qu'en affaires, c'est quelque chose de très simple. Tu sais, c'est cette méthodologie-là. Who's the target? On sait la segmentation, on détermine les besoins de chaque segment. Donc, cette méthodologie, je pense qu'elle s'applique un peu partout. Mais après, comment gérer les clients? On a vu déjà... Puis pour travailler avec beaucoup de différentes boîtes de design, je pourrais dire que ça, c'est une partie de l'éventail. On pourrait même pas dire que ça représente tout le monde.
Peut-être juste pour préciser, je parlais plus du côté, mettons, comme on parlait du côté, le niveau affaires ou la vulgarisation affaires. C'est ces compréhensions-là, pour moi, dans un rôle comme le mien, c'est sûr et certain que je dois comprendre le niveau affaires, sinon je n'ai aucune place dans mon rôle. Quand que je comprends que dans d'autres rôles que vous avez, c'est peut-être moins important. C'est pour ça que j'ai peur des fois que les gens entendent ça et se disent « OK, fait que c'est peut-être pas important parce que c'est ce que je chantais un peu plus tantôt. » Ça a été nuancé à travers le discours par la suite. Mais j'ai peur que des fois, on entende des choses et qu'on se dise « Ah, ça s'applique à toutes les situations. » Je veux que les gens gardent ça en tête tout le temps, d'en dire « Dans mon contexte à moi, j'ai entendu cette réponse-là, mais pour moi, peut-être que ça s'applique pas. » Je veux juste que les gens entendent ça aussi.
Moi, je pense que la prémisse de réflexion comme designer, tu sais, je mentionnais que j'avais étudié en design d'environnement, puis que j'adorais ça en rétrospect, parce que C'était un cours où on apprenait à réfléchir en design. C'était un cours de réflexion du design. Puis après ça, oui, c'était de l'objet, oui, c'était de l'architecture, c'était de l'urbanisme. Mais c'était vraiment, genre, à la base, c'était comment réfléchir en termes de design. Fait que ça, tu sais, la première strate comme designer, je te dirais que les triggers de réflexion sont très communs, peu importe la pratique. Je discute avec des architectes, je discute avec des designers graphiques. Notre approche par rapport à la problématique se ressemble énormément. Tu sais, c'est un langage qui est très commun. Okay? Après ça, les réalités d'affaires peuvent être extrêmement différentes. Naviguer ça peut être extrêmement différent. Donc, les nuances, je te dirais, par rapport à ça, sont inévitablement différentes. Je vais te donner un exemple. Tu dois représenter quelqu'un qui fait des luminaires. OK? Je veux dire, il y a quand même une partie où, oui, il y a des commissions, mais il y a une partie aussi où on va s'en remettre beaucoup à l'expertise de la personne parce qu'on aime son style, parce qu'on aime ce qu'il fait. Donc, il y a un niveau de liberté qui est beaucoup plus grand où c'est presque sculptural, par exemple, puis on est content du résultat. Oui, il y a des étapes, mais tu vois ce que je veux dire? Probablement aussi, on vient voir ton studio et puis on connaît le style, on connaît la rigueur, on connaît la réputation, on a vu le travail que tu as fait. Donc, on vient avec quelque chose où on se laisse bercer un peu, là, où on se laisse porter un peu par ton expertise, l'expertise de ton équipe et tout. Moi, par exemple, ça peut être très différent. Oui, l'expertise est importante, mais comme je dis, que ça soit une interface de télé ou un flow d'achat en ligne, je veux dire, l'un ne comprend pas l'autre. Fait que, si je dis, hey, je fais des interfaces de télé, puis c'est un cégep, ils vont dire, OK, comment A plus B peut donner C, là? Donc, ça, inévitablement, il y a vraiment une partie où il faut qu'on développe une expertise. Moi, je dis toujours, il faut que vous soyez tellement calé dans le sujet. Il faut que vous allez chercher une expertise, il faut que vous compreniez c'est quoi les besoins d'affaires. On parlait de IA, je trouve que c'est pour se donner des pistes, justement, à comprendre un contexte, un domaine. Moi, je me rappelle, en 2002, j'ai fait le site de l'Opéra de Montréal. Je veux dire, j'ai été chez Archambault, j'ai acheté 8 CD d'opéra, j'avais jamais écouté ça de ma vie, puis j'ai commencé à en écouter, j'ai demandé à l'Opéra de Montréal de me donner des billets pour que je puisse aller voir des représentations pour pouvoir me familiariser. Puis c'est après tout ça que j'ai commencé à designer, tu sais, déjà en 2003. Mais aujourd'hui, on peut aller chercher beaucoup plus, mais cette expertise-là, faut comprendre la réalité d'affaires, faut comprendre la réalité de business, que ça soit genre, on fait un outil, par exemple, pour des fournisseurs de tuyauterie industrielle. Tu sais, OK, mais c'est quoi les plombiers? Puis c'est quel genre de plombier, là? C'est pas plombier du coin, c'est des plombiers ou des ingénieries ou des firmes d'architecture, là, pour justement de la ventilation. Hey, peux-tu parler avec un de ces plombiers-là pendant 2-3 heures? OK, ouais, tu sais.
Qui veut nous faire un petit mot de la fin? Anna?
J'allais juste faire une observation. Je pense qu'il y a une grosse différence entre un pull market puis un push market. T'sais, si on se voit à être comme un parmi 100 puis on essaie de faire une compétition pour un espace, c'est pas la même chose que se dire nous, on va être le meilleur à faire X, Y, Z puis on va trouver tous les gens qui cherchent X, Y, Z puis on va être les meilleurs puis ils vont venir nous chercher pour nos compétences. C'est deux stratégies de vente très différentes. Puis ça va vraiment avoir un impact important de comment on vend aussi. Mais ce n'est pas un mot de la fin.
Si, c'est un très beau mot de la fin. Hein? un beau mot de la fin? Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais.
Ah ben, merci beaucoup, cher panéliste. Merci, Bertrand. voilà.